30 pour ce nouveau rendez-vous, donc le pôle Info Santé. C'est un rendez-vous qui a été créé, vous le savez, il y a 17 ans maintenant, et le pôle Info Santé, eh bien, c'est le fruit entre le partenariat avec le CHU, dont l'une des missions, je vous la rappelle, c'est l'éducation à la santé, puis l'espace Mendès France, qui est le centre de culture scientifique. Et l'objectif de ce rendez-vous, eh bien, c'est de vous permettre à vous, grand public, de pouvoir dialoguer, échanger, poser vos questions avec des professionnels du milieu de la santé hospitalier et généraliste. Nos intervenants vont bien sûr se présenter à vous dans un instant et vont proposer un exposé sur notre thème de ce soir, donc tabac et cancer du poumon. À la fin des exposés, vous pourrez poser bien sûr vos questions à nos spécialistes, qui sont quatre, qui sont là pour répondre à vos questions. Alors, soit je viendrai vers vous avec mon micro, vous pourrez poser vos questions, il y aura aussi une hôtesse qui sera là. Si vous êtes timide, si vous n'avez pas envie de parler dans le micro, parce que ça fait peur, vous voyez, moi j'ai peur ce soir par exemple, eh bien vous pourrez écrire vos questions sur les petits papiers, vous en avez des petites feuilles dans le dossier jaune que l'on vous a remis. Vous avez également entre vos mains donc des documents que vous pourrez lire. Il y a aussi des documents à compléter, sont des fiches d'évaluation. Alors ces fiches sont assez importantes puisqu'elles nous permettent sans cesse d'améliorer ce rendez-vous. Donc s'il y a des petites choses qui vous plaisent, d'autres qui vous plaisent un peu moins, vous n'hésitez pas à les remplir et vous les remettrez donc à la fin de ce rendez-vous, soit à moi, soit aux hôtesses qui seront là. Tabac et dépendance, sevrage, dépistage du cancer du poumon, traitement, recherche et avancée, voici quelques-unes des questions que nous évoquerons donc ensemble lors de ce rendez-vous. Bienvenue donc à vous, toutes et à vous tous, donc à cette 89e édition conférence Pôle Info Santé, ici à l'espace Mendès France. Je vais vous présenter nos intervenants. On va commencer par le docteur Corinne Lamour. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes pneumologue et cancérologue au CHU de Poitiers. Avec vous, nous évoquerons l'épidémiologie, facteurs du risque, traitement, radiothérapie, chimiothérapie. Le professeur Pierre Corby, bonjour. Première heure de la soirée. Chirurgien cardio-thoracique au CHU de Poitiers. Nous évoquerons avec vous le traitement chirurgical. Le docteur Daniel Hoffnung, médecin généraliste. Bonsoir docteur. Avec vous, nous évoquerons le suivi du patient. Et puis le docteur Michel Anderner, pneumologue et tabacologue. Nous verrons avec vous le sevrage tabagique.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous n'hésiterez donc pas à poser vos questions à la fin de nos interventions. Je vais vous proposer tout de suite de démarrer ce rendez-vous avec le docteur Corinne Lamour. C'est à vous.
Donc, bonsoir. Donc, je suis le docteur Corinne Lamour. Je travaille au CHU de Poitiers dans le pôle régional de cancérologie. Je suis pneumologue et j'ai une spécialisation en cancérologie thoracique. Donc, je m'occupe des patients qui ont des cancers du poumon et ça m'occupe 100% de mon temps, donc pleinement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du cancer du poumon? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui persiste? Le cancer du poumon, malheureusement, ça représente toujours la première cause de mortalité par cancer. Et c'est quelque chose qui demeure actuellement. Parmi les estimations qui ont été faites en 2010, on peut dire que 30 000 nouvelles personnes ont eu un cancer du poumon pendant l'année 2010. Pour 80% d'entre eux, la cause principale en est le tabac. Et le docteur Anderner vous en parlera de façon un petit peu plus précise un peu plus tard. Simplement, c'est un facteur de risque qui est extrêmement important. C'est un des rares cancers dont on peut dire qu'il existe un facteur de risque clairement défini et qu'il existe un système simple de prévention. Donc 80% des cancers du poumon pourraient être évités avec un moyen simple, accessible à tous. Ce serait de ne pas fumer, bien évidemment. Cependant, à côté de ceci, il ne faut pas oublier que 20% des patients atteints de cancer poumon n'ont jamais fumé. Et cette proportion de personnes non-fumeurs augmente progressivement d'année en année. Quel est l'âge moyen d'un cancer pour faire un cancer du poumon à l'heure actuelle? C'est autour de 65 ans. C'est une moyenne, bien sûr. Il existe des extrêmes. On voit malheureusement de plus en plus des sujets très jeunes et on commence à rencontrer des personnes atteintes de cancer du poumon dès l'âge de 30 ans. Inversement, on a des personnes aussi très âgées et il n'est pas rare de voir maintenant des diagnostics de cancer de poumon faits chez des patients de 90 ans. Donc tous les extrêmes sont possibles. Alors je vais essayer de répondre rapidement à 3 ou 4 questions qui sont les questions qu'on me pose le plus souvent en consultation. Première question, c'est comment traite-t-on un cancer du poumon à l'heure actuelle? Les principes de traitement du cancer du poumon reposent sur plusieurs options thérapeutiques. La première option, et le professeur Corby vous la développera un petit peu plus tard, c'est la chirurgie thoracique. Celle-ci est possible essentiellement pour des tumeurs localisées, donc des petites tumeurs, Malheureusement, c'est la minorité de nos patients, entre 10 à 20% des cas. Pour les autres patients, lorsqu'on fait le diagnostic, nous sommes déjà devant une tumeur assez évoluée qui ne permet pas une résection chirurgicale et donc il faut envisager d'autres options thérapeutiques. Quelles sont-elles à l'heure actuelle? On dispose de la chimiothérapie et de la radiothérapie. La chimiothérapie, ce sont des traitements que l'on peut donner en perfusion, qui sont des traitements contre le cancer. Il existe également à l'heure actuelle des traitements qu'on peut donner en comprimé, et ça c'est un gros progrès. La deuxième option thérapeutique, c'est la radiothérapie. Celle-ci peut être effectuée sur le thorax, donc pour traiter le cancer du poumon directement, mais ça ne s'adresse là encore qu'à des tumeurs qui sont localisées au thorax dans des modalités de prescription très précises. Les autres radiothérapies que l'on peut effectuer, ce sont des radiothérapies, dans le cas de métastases, donc des radiothérapies palliatives que l'on peut faire pour améliorer les symptômes, notamment sur des lésions osseuses ou éventuellement cérébrales. Voici pour les principales options thérapeutiques. La deuxième question, c'est qui choisit mon traitement et comment mon traitement est choisi? Alors, lorsque le diagnostic d'un cancer du poumon est porté chez un patient, le dossier de ce patient va être présenté lors d'une réunion qu'on appelle une réunion multidisciplinaire qui a lieu chaque semaine et à laquelle participent tous les acteurs qui sont impliqués dans le traitement du cancer du poumon. Ces acteurs seront les chirurgiens thoraciques, les pneumologues, les oncologues thoraciques, les radiothérapeutes et sera discuté toutes les options thérapeutiques dans le cadre de ce dossier. Les chimiothérapies, les radiothérapies ne sont pas choisies, bien sûr, au hasard, mais sont choisies selon des traitements qui sont établis, qu'on appelle des référentiels, et qui ont été élaborés en fonction des résultats des essais cliniques qui ont montré que tel produit ou tel protocole est plus efficace dans tel type de cancer. Troisième question, serais-je traité de la même façon, quel que soit l'endroit où je serai traité? Alors, dans la mesure où ces traitements sont choisis d'après des référentiels et s'appuient sur le résultat d'essais cliniques, il est bien évident qu'en principe, un patient sera traité de la même façon, quel que soit l'endroit où il sera traité. Simplement, certains traitements sont adaptés à des caractéristiques particulières, soit des individus, soit des caractéristiques de la tumeur, qui fait qu'il peut y avoir effectivement quelques variations, mais les grands principes sont les mêmes, quelle que soit la ville de France ou d'un pays étranger. Y a-t-il un âge limite pour être traité? Est-ce qu'on peut traiter le cancer du poumon, quel que soit l'âge? Alors, sur le plan du principe, la réponse est oui. Ce n'est pas l'âge, finalement, qui est le plus important. Ce qui est très important, c'est l'état général du patient, l'âge physiologique, l'absence de pathologies associées qui pourraient porter un préjudice au niveau du traitement. Et c'est tous ces éléments qui seront pris en compte. Et donc, on peut parfois traiter des sujets qui sont assez âgés. Dernière question, y a-t-il des progrès en termes de traitement du cancer du poumon? Malheureusement, aujourd'hui, le cancer du poumon reste un des cancers qui a le plus mauvais pronostic. Cependant, des progrès ont été effectués et, heureusement, les thérapeutiques évoluent encore. Depuis peu, nous avons à notre disposition ce qu'on appelle des thérapeutiques ciblées, c'est-à-dire des traitements qui sont vraiment dont l'effet est vraiment couplé à, j'essaie de vous expliquer les choses assez simplement, à des caractéristiques moléculaires de la tumeur et donc des traitements qui sont vraiment faits comme une carte d'identité par rapport à la tumeur. D'autres produits sont en cours d'étude dans des essais de recherche clinique et ces traitements de cancer à la carte vont évoluer dans les années qui viennent et nous en espérons beaucoup. Je répondrai après donc à toutes les questions qui vous viennent à l'esprit et je vais laisser la parole au docteur Anderner qui va nous parler du tabac. Je vais te laisser ma place.
Bonsoir, je vais peut-être me mettre par là, j'aime bien être debout et bouger. Donc je vais vous parler, je suis le docteur Michel Anderner, je suis pneumologue et responsable de l'unité de tabacologie au CHU de Poitiers depuis 1989. Donc je vais parler de généralité sur le tabac et le sevrage tabagique, puisqu'évidemment, si les personnes ne commençaient pas à fumer, il y aurait beaucoup moins de cancers du poumon, comme le disait Corinne. Tu peux me passer la suivante, Pierre, s'il te plaît. Donc dans l'addiction au tabac, il y a toujours trois acteurs, comme dans toutes les dépendances, puisque le fait de fumer, c'est une dépendance, comme l'héroïne, la cocaïne ou autre. Donc il faut tenir compte du sujet, du produit et de l'environnement. Si on omet un de ces facteurs-là, on se plante. Notamment pendant très longtemps, l'environnement a été sous-estimé et pas assez étudié. Le sujet, il y a des facteurs génétiques avec des inégalités selon les individus. On connaît tous des gens de 90 ans qui ont fumé toute leur vie et qui sont en pleine forme. Mais évidemment, ce sont des statistiques. En général, ça ne se passe pas bien. Il y a aussi des facteurs acquis, comme des événements de vie, qui font qu'on va être plus dépressif, plus fumeur, etc. La suivante. Donc la fumée de tabac, c'est terrible, puisque ça contient environ 4000 substances, que l'on ne connaît pas toutes, loin de là. Et donc là, c'est en quatre grandes familles. Les alcaloïdes du tabac, dont le chef de file est la nicotine, qui est bien entendu responsable de la dépendance du fumeur, et qui a été accusé pendant longtemps d'avoir des effets cardiovasculaires, ce qui ne semble pas être le cas. La nicotine a des effets cardiovasculaires minimes, sauf chez l'enfant. Donc ça agit sur le cerveau, on le verra tout à l'heure avec un schéma. La deuxième substance extrêmement toxique pour un sujet qui n'est pas traité aujourd'hui, mais qui sont les maladies cardiovasculaires, c'est le monoxyde de carbone, celui des pots d'échappement de voiture, qui se fixe sur l'hémoglobine et qui empêche l'oxygène d'accéder aux organes et qui donne des plaques d'athérome qui bouchent les artères et qui donne des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus du myocarde, etc. Ensuite, on a les substances cancérigènes, que l'on appelle vulgairement les goudrons, avec le benzopyrène, qui est issu de la combustion de la fumée de tabac, mais aussi des substances comme les nitrosamines, qui sont soit issues de la combustion, soit présentes dans des tabacs non fumés. C'est la grande mode en Suède, ce qu'on appelle le snus ou le snus, très utilisé par les adolescents, qui est en fait un dérivé du tabac à mâcher. En fait. Donc ces cancérigènes donnent les cancers, évidemment. Et ensuite, on a les irritants, qui ne donnent pas de cancer, mais qui donnent la toux du fumeur, et ce qu'on appelle la BPCO, qui est la nouvelle appellation scientifique de la bronchite chronique. Ça veut dire bronchopneumopathie chronique obstructive. La suivante, s'il te plaît. Donc le tabac tue 13 fois plus que les accidents de la route en France, par cancer, et pas que du poumon, bien sûr, par maladie cardiovasculaire, et puis par aussi bronchite chronique qui se termine en insuffisance respiratoire chronique. La suivante. Alors la démonstration scientifique de l'association entre tabac et cancer du poumon est relativement récente en médecine, puisque ce sont les études de deux médecins anglais, Doll et Peto. Doll a été anobli par la reine d'Angleterre, c'est Sir Richard Doll, qui ont travaillé, Doll et Peto, pendant 40 ans sur des confrères médecins britanniques et qui ont fait des courbes de survie en comparant les non-fumeurs et les fumeurs. Et la démonstration a été frappante. Donc, démonstration des années 50 seulement. La suivante. Quand on fume, on a une chaîne, hein, donc il y a un jeu de mots avec l'hôtel fumé, puisqu'il y a la rue de la chaîne qui n'est pas loin, même si c'est la rue Descartes. Enfin bon, d'habitude, je fais trouver aux étudiants, mais là, bon, à cette heure-là, on ne va pas le trouver. Hein. Donc on est enchaîné quand on est dépendant au tabac, c'est ce que disent les gens, je suis prisonnier, je suis enchaîné, je suis esclave, d'où l'image de la chaîne. Donc on a une triple dépendance quand on fume, une dépendance qu'on appelle physique ou pharmacologique qui est liée à la nicotine, comme on le serait pour la cocaïne, l'héroïne, les amphétamines, etc. On a une dépendance psychique qui sont dues au fait que dans la fumée de tabac, il y a des substances qui ont des effets positifs sur le cerveau, sinon les gens ne fumeraient pas. Ça détend, c'est anti-stress, c'est antidépresseur, ça stimule intellectuellement, ça a un effet coupe-faim, etc., ça soutient le moral. Et puis enfin, on a une dépendance comportementale, c'est le geste, hein, tenir sa cigarette, des réflexes, je prends un café, je fume, je fais une pause, je fume, je fais une soirée, la fête avec des amis, je fume, etc. La suivante. Alors ce qui est redoutable dans la cigarette, c'est que la cigarette se comporte comme une super seringue à nicotine. Il y a eu des essais chez des volontaires en injection intraveineuse. La nicotine arrive beaucoup plus vite au cerveau en fumant qu'en se faisant une injection intraveineuse au laboratoire. 7 à 10 secondes quand on fume, 17 à 20 secondes quand on se fait injecter de la nicotine en intraveineux. Ce n'est pas conseillé, hein, c'est pour la recherche. Alors, cette nicotine qui arrive au cerveau, il y a deux neurones ici, hein, c'est un sujet assez simple, il y a deux neurones. Et la nicotine arrive, ça libère de la dopamine dans la synapse entre les deux neurones, et au niveau d'un système qu'on appelle le système de récompense cérébrale, ça procure du plaisir au cerveau, mais malheureusement aussi de la dépendance au tabac. Quelqu'un qui a envie de fumer peut avoir ce que les Anglais appellent un craving, c'est-à-dire une forte envie de fumer, un besoin urgent de fumer, de deux façons différentes. Soit parce que le fait de fumer apporte des sensations positives, et à ce moment-là, on va reprendre une cigarette pour avoir à nouveau du plaisir, ou être déstressé, etc. Ou au contraire, en renforcement négatif, c'est qu'en fait, le fait de fumer va supprimer la sensation de manque, un peu comme un antalgique supprimerait la douleur. C'est pas sympa de prendre un antalgique, mais c'est quand même plus sympa de ne plus avoir mal. La suivante. Alors, pour arrêter de fumer, il ne suffit pas simplement de dire « je vais arrêter de fumer », il faut deux réacteurs à l'avion. Donc, c'est le modèle de l'avion avec deux réacteurs. Il faut un réacteur qui s'appelle la prise de conscience du problème. En général, tout le monde le sait maintenant. Encore faut-il que ce soit pour soi-même. C'est-à-dire souvent, on est conscient que c'est dangereux pour les autres, mais pas pour soi. Donc il y a un travail à faire à ce niveau-là. Et surtout, le réacteur qui marche très mal actuellement chez la plupart des personnes fumeuses, c'est la confiance dans sa capacité à réussir l'arrêt. Donc on peut travailler là-dessus, sur ces deux réacteurs, pour arriver à la prise de décision « j'arrête de fumer ». La suivante. Alors ça, c'est le schéma de Prochaska. Prochaska et Dick Clemente sont deux psychologues américains qui ont proposé en 1992 un schéma du changement de comportement. Au départ, c'était pour les patients alcooliques et aussi fumeurs, en disant qu'au cours de sa vie, une personne qui est addict, qui est accro à une substance, va passer par différentes étapes. Et on part du fumeur heureux, bien sûr, hein, c'est ce qu'on appelle la lune de miel avec la substance. Ensuite, il y a le fumeur indécis, qui est dans le 50-50 de Jean-Pierre Foucault. 50% j'arrête, 50% je continue. Ensuite, le stade de prise de décision, d'arrêt du tabac, d'abstinence. On devient ce qu'on appelle un ex-fumeur, ce qui n'a absolument rien à voir avec un jamais fumeur, puisque quelqu'un qui n'a jamais fumé n'a absolument pas le même profil psychologique ni les mêmes caractéristiques neurobiologiques qu'un ex-fumeur. Et puis, bien sûr, deux flèches terribles qui amènent à la reprise. Cette reprise peut amener au stade de fumeur indécis, mais jamais au stade de fumeur satisfait. Prochaska avait dit qu'il fallait en moyenne faire 3 à 4 passages dans cette boucle pour s'en sortir, ce qui n'était pas très optimiste. Alors, comme aide possible à l'arrêt du tabac, on a soit des médicaments, avec une famille très utilisée qui sont les substituts nicotiniques. Je vous ai apporté des échantillons de patchs, de gommes, de comprimés, etc. Et puis des médicaments qui font beaucoup parler d'eux, hein, le Ziban et le Champix, qui ne sont pas anodins, même s'ils sont efficaces, qui n'agissent que sur la dépendance physique. Donc ça, c'est un élément important. Il y a 3 dépendances chez le fumeur. Ces médicaments-là n'agissent évidemment que sur le versant nicotinique. La suivante est presque dernière, je crois. Alors, que faire pour la dépendance psychocomportementale ? Pas de médicaments. La thérapie la plus validée actuellement, c'est ce qu'on appelle les TCC, thérapie cognitive et comportementale. Très à la mode, il y a un effet de mode, c'est sûr, mais ça a démontré leur efficacité. Et puis, des techniques comme l'acupuncture, l'auriculothérapie, l'hypnose, etc. Et puis, il faut toujours penser à la prise de poids. La plupart de nos patients nous disent « c'est terrible, j'ai pris 3, 4, 5, 10, voire un peu plus de kilos ». Donc, pensez à la prévention de la prise de poids en amont, avec des consultations de diététique. On a Solène avec nous. Et puis, l'activité physique, etc. Il ne faut pas oublier ce problème de poids à l'arrêt du tabac, qui sont la question majeure des patients et surtout des patientes. Je pense que. Donc là, je vous ai mis 2 sites internet. Celui de l'OFT, c'est l'Office français de prévention du tabagisme, qui est boulevard Saint-Michel à Paris, regroupé dans la Maison du Poumon. Et puis l'INPES, l'Institut National Prévention et Éducation pour la Santé, qui sont des sites extrêmement sérieux et que vous pouvez aller consulter. Je vous remercie de votre attention.
Bon, à mon tour maintenant, parler un peu de chirurgie brièvement. J'ai le beau rôle, hein, comme disait Corinne, parce que...
Professeur, si vous pouviez prendre le micro, s'il vous plaît.
Oui. C'est considéré comme la meilleure option de traitement, mais encore, il faudrait que ça soit adapté à la chirurgie. La chirurgie ne peut pas s'adresser à l'ensemble du cancer du poumon. Il faut effectivement que ce cancer soit enlevable, résécable, comme on dit. Donc la chirurgie a une place importante dans le traitement. La diapo suivante. Alors, ça, sans empiéter sur ce qu'ont fait mes collègues, c'est un peu le changement de paysage qu'on a eu ces dernières années. C'est-à-dire qu'avant, j'étais en apprentissage, quand on opérait le cancer du poumon, on opérait des hommes. Maintenant, on opère des hommes et des femmes. Alors souvent, on dit qu'il n'y a pas assez de femmes dans tel ou tel endroit. On pense que c'est un progrès social, je ne sais pas en quoi en penser, là, ici. Mais voilà, la grande préoccupation, c'est l'accession des femmes, et singulièrement des femmes jeunes, à la chirurgie de ce cancer du poumon. Je vous laisse en tirer toutes les conclusions qu'il faut, mais c'est ce qu'on a vu, nous apparaître. Suivante. Alors, bon, comment ça s'opère? Et je vais essayer, comme Corinne, sur les diapos, de répondre aux principales questions, puis on verra après. Comment ça s'opère? Ben, ce qu'on appelle une thoracotomie, c'est-à-dire qu'on met le patient sur le côté, on fait cette grande incision oblique qui suit les côtes, on ouvre de part et d'autre, on écarte les côtes, et on arrive au poumon qui est au-dessous. Donc en général, ben, quand on doit se faire opérer du poumon, on a une grande incision sur le côté comme ça. Suivante. Alors, l'opération standard, c'est ce qu'on appelle une lobectomie. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il y a des divisions naturelles dans cet organe qui est le poumon, qui est divisé en deux ou en trois. C'est-à-dire que naturellement, il y a ce qu'on appelle des scissures qui permettent de séparer le poumon en deux ou trois parties. Et naturellement, on est contraint de suivre ces divisions pour arriver à enlever du poumon. En effet, il ne faut pas enlever juste la tumeur. La chirurgie du cancer et du cancer du poumon a tout lieu d'être si l'on enlève tout et largement. Sans quoi, c'est un échec. C'est pour ça que ça s'adresse au stade précoce du cancer du poumon. Ça n'a d'intérêt que si on enlève tout et largement. D'où ces exérèses qui peuvent sembler assez larges, qui vont en général à la moitié du poumon, parfois un tiers. Suivante. Alors voilà, juste un petit mot de la classification. Donc vous connaissez peut-être ça, parce qu'en cancer, c'est la classification TNM qui a cours sur beaucoup de tumeurs. La chirurgie, elle s'adresse, comme disait Corinne, essentiellement sur les tumeurs de petite taille, T1, T2, ça c'est la classification des tumeurs, et quand il n'y a pas trop de ganglions atteints, N0, N1. Plus on monte en N, plus les ganglions sont atteints. Et on arrive à des stades où, ben, quand la tumeur est trop grande et les ganglions sont trop atteints, là, on n'a plus de place de la chirurgie. Enfin, quand il y a vraiment des très grosses tumeurs, des métastases et un envahissement ganglionnaire majeur, il ne faut plus faire de la chirurgie. Ça, c'est la vérité brute, comme toujours, comme en politique, comme en justice, comme dans les lois, ben, il y a la règle et l'exception. Donc, parfois, on peut être amené à opérer des patients qui ont quand même des extensions importantes, ça vaut le coup quand même de faire de la chirurgie, c'est des cas d'espèce, c'est des cas qu'il faut discuter longuement dans la réunion de concertation pluridisciplinaire qui ont été un réel progrès du plan cancer par rapport au traitement des patients. Et parfois, ben, des patients qui ont une petite tumeur ne seront pas opérables, ne seront pas proposés aux chirurgiens. On va voir pourquoi. Suivante. Alors, le traitement complet, c'est l'exérèse large de la tumeur et le curage ganglionnaire. C'est-à-dire qu'il faut être à même d'enlever une bonne partie du poumon et d'aller, alors là c'est les deux poumons, de chaque côté, on doit systématiquement enlever les ganglions, malades ou pas malades. C'est donc une chirurgie qui demande un petit peu de temps, un petit peu d'expérience, et c'est pour ça que les techniques de vidéochirurgie ne sont pas la règle dans ce genre de chirurgie, car il faut avoir de la place pour aller partout et être sûr d'avoir fait le curage ganglionnaire complet. C'est très important. Que les ganglions soient malades ou pas malades. Suivante. Alors voilà pourquoi on peut être amené à ne pas opérer un patient qui a une petite tumeur pulmonaire et dont la meilleure chance serait à la chirurgie, si évidemment il a des contre-indications et que ce n'est pas raisonnable de l'opérer. Donc vous voyez pour l'âge, c'est encore assez large, 80-85 ans, on pense que c'est une limite sur laquelle on commence sérieusement à se poser la question d'une chirurgie. Quoique de temps en temps, dans certains cas, on peut proposer justement des chirurgies plus limitées. Ça, c'est des cas d'espèce, des discussions. En suivant l'autre contre-indication, l'autre limitation, évidemment, que je vous ai dit, on va enlever un lobe pulmonaire, la moitié du poumon. Il faut avoir assez de poumons restants. Alors, le poumon, c'est quelque chose qu'on a. C'est un organe un peu large, puisque nous tous, avec les deux poumons qu'on a, si on n'a pas trop fumé, on peut courir le marathon. On est peu à le faire. Donc on a une réserve pulmonaire qui est énorme. Donc la plupart du temps, quand on dit « mais dites donc, vous allez m'enlever un lobe, vous en parlez comme ça, je vais être invalide après », non. La plupart du temps, on enlève un lobe pulmonaire, soit un quart du poumon, de la capacité pulmonaire, il n'y a rien. Et même parfois, on fait des épreuves fonctionnelles respiratoires un an après, et on ne se rend même pas compte, parce que c'est un organe qui a une capacité énorme. Cependant, dans certains cas, ces patients, comme le disait Michel, ils ont fumé, donc ils peuvent avoir plusieurs effets. Ils peuvent avoir le cancer, ils peuvent avoir la bronchite chronique avec une diminution de la capacité pulmonaire, et même certains chanceux, en plus, la maladie coronarienne qui contre-indique l'opération. Donc, il faut quand même ne pas avoir taux de destruction pulmonaire et qu'on puisse enlever une bonne partie du poumon. Pour ça, on fait des épreuves fonctionnelles respiratoires et on a des règles de calcul qui nous permettent de calculer le poumon restant et de savoir si c'est raisonnable ou pas raisonnable d'enlever une bonne partie du poumon. Il y a d'autres batteries de tests plus sophistiquées qu'on a au CHU dans les cas les plus litigieux et les plus difficiles. Troisièmement, la troisième grande contre-indication, il y en a d'autres, on pourrait parler des cas d'espèce, de l'insuffisance rénale et tout, on ne va pas passer le catalogue, mais enfin, les plus fréquentes. L'autre limitation, c'est évidemment le cœur, parce que comme je vous disais, c'est les mêmes causes faisant les mêmes effets. Il peut arriver qu'un candidat à la résection pulmonaire ait aussi la maladie cardiaque, et il peut y avoir à ce moment-là une contre-indication cardiaque. Je crois qu'il n'y a plus rien. Juste un court diaporama pour un peu camper la chirurgie pulmonaire. Et puis, on verra les questions qu'il y a après. Je vais laisser la parole à Daniel Hoffnung en tant que généraliste.
Merci. Alors, il m'a paru important de parler aussi de la médecine générale. Pour expliquer la démarche, parce que ce n'est pas l'exercice d'un peu toutes les spécialités, mais c'est effectivement une entité à part entière qui vise à réaliser la prise en charge globale du patient en ayant toujours à l'esprit que celui-ci est au centre de la démarche. Suivante, s'il te plaît. Et pour ça, il faut toujours avoir à l'esprit qu'on a bien sûr affaire à une personne avec son histoire, ses croyances, ses désirs et bien d'autres choses encore. Le champ de son environnement familial, le voisinage, l'entourage médical, et puis bien évidemment, puisqu'on le voit pour ça, la maladie et son pronostic, et en l'occurrence le cancer du poumon, et vous avez entendu que c'était une maladie quand même encore très grave. Et cela, ça permet de réaliser bien sûr un diagnostic médical, mais aussi un diagnostic de situation qui est indispensable en médecine générale. Suivante. Voilà un résumé, et il faut imaginer que le patient, il est à l'intersection de ces trois cercles. La suivante. la prise en charge, c'est bien sûr toujours dans le respect de la déontologie, des règlements et des lois. Il faut écouter, recueillir, analyser, synthétiser et puis hiérarchiser les demandes et problèmes pour pouvoir élaborer avec le patient et surtout en utilisant son langage et avec les autres intervenants, c'est le rôle de la coordination, la prise en charge globale dans le cadre d'une décision partagée et cela pour une meilleure alliance thérapeutique. Et puis en dehors de l'hôpital, c'est bien sûr la continuité de la prise en charge. La coordination, eh bien, elle est indispensable à la prise en charge globale entre les médecins spécialistes de la pathologie, le médecin généraliste et puis tous les autres intervenants médicaux, l'infirmière en premier lieu qui est souvent la plus présente auprès du patient, le kiné, l'orthophoniste, etc., éventuellement l'assistante sociale et parfois un réseau de santé. Suivante. Il faut parler du tabagisme des jeunes aussi, parce qu'on en voit beaucoup en consultation, et quand on leur pose la question, on voit bien qu'ils commencent très tôt, ils fument beaucoup, toujours dans un cadre festif au début, avec des soirées bien arrosées, accompagnées de cannabis, et puis les jeunes filles ont exactement le même comportement que les garçons en termes de toxicomanie pour ces produits. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont tous persuadés qu'ils ne sont pas dépendants et qu'ils ne le deviendront pas parce qu'ils sont capables d'arrêter quelques jours au début de cette toxicomanie. Suivante. En médecine générale, et de toute façon en général pour le cancer de poumon, il n'y a pas de dépistage systématique en termes de santé publique. On peut réaliser un dépistage individuel en recherchant les facteurs de risque et donc principalement le tabagisme. Suivant. Mais toujours en médecine générale, et Pierre Corbier en a parlé, il faut bien sûr penser à toutes les autres pathologies induites par le tabac, les maladies cardiovasculaires en premier lieu, mais les cancers de vessie, ORL, certains cancers digestifs, et puis la bronchite chronique. Mais il faut aussi savoir hiérarchiser ces problèmes en fonction de la gravité des pathologies du moment. La suivante. En médecine générale, souvent, qu'est-ce qui nous guide vers un bilan complémentaire? On voit un patient qui est tabagique, qui fait une, deux bronchites à la suite ou une pneumopathie. Il nous dit qu'il a craché un petit peu de sang, il a une douleur thoracique localisée. Il faut penser à faire une radio pulmonaire. Il faut penser aussi à demander un avis pneumologique, voir s'il faut faire une fibroscopie, un scanner. Et puis, il y a aussi la découverte fortuite parce qu'il est tombé. On fait une radio du thorax pour rechercher une fracture de côte et puis on trouve un cancer du poumon. Suivante. Alors, rapidement, le suivi immédiat, après le diagnostic, en fait, le patient, il va être dans le circuit hospitalier, il est pris en charge, il voit le médecin fréquemment, il voit les soignants fréquemment, soit pour la radiothérapie, la chimiothérapie, les examens de surveillance, etc. Donc pendant cette période, notre suivi va se limiter à un recours ponctuel par rapport à sa pathologie en traitement, pour des adaptations de traitement, des effets secondaires éventuellement, et puis surtout l'écoute et du patient et de sa famille, parce qu'il y a souvent beaucoup de questions. Suivante. C'est aussi donc la prise en charge des complications du traitement, avec le suivi et les adaptations. Suivante. Et puis, problème essentiel pour le confort du patient, c'est ce que disait Michel une dernière tout à l'heure, ne pas souffrir, c'est quand même mieux que de souffrir, et ça permet d'assumer plus facilement les traitements parfois difficiles. Suivante. Dans l'exercice au quotidien avec ces patients, c'est aussi rechercher les complications et essayer de les prévenir, les infections, les complications des traitements, les métastases quand il y a éventuellement des symptômes nouveaux, proposer une vaccination antigrippale annuelle, un vaccin contre le pneumocoque tous les 5 ans, et puis surtout demander aux patients d'arrêter de fumer parce que malheureusement, beaucoup continuent à fumer après. Suivante. ne pas oublier de prendre en charge les autres pathologies aiguës ou chroniques, et les chroniques souvent préexistantes, suivantes. Et puis après, il y a bien sûr la fin de vie en médecine générale. C'est actuellement de plus en plus en milieu hospitalier, parce que pour pouvoir garder un patient à domicile, il faut quand même qu'il soit entouré, et entourer une grande partie du jour et de la nuit s'il est vraiment en fin de vie et incapable de subvenir à une partie de ses besoins. Donc l'entourage familial est indispensable. On peut avoir recours à des auxiliaires de vie, mais il faut que les patients aient les moyens de financer. Et on a des structures d'aide qui sont l'hospitalisation à domicile, le service de soins infirmiers à domicile qui dépend des CCAS, de la ville, et dans certaines régions des réseaux de santé. Suivante. Et bien c'est fini. Merci.
Merci, madame, messieurs, pour la clarté de vos propos. Tous bien compris. Vous allez pouvoir maintenant intervenir, bien évidemment, donc poser vos questions à nos spécialistes qui sont là, soit directement avec le micro, soit via le petit papier. J'aimerais, pour commencer, peut-être vous poser, moi, une première question qui va peut-être vous faire sourire, je ne sais pas. C'est une question qu'on se pose quand on est fumeur. À partir de combien de cigarettes par jour estime-t-on que l'on devient dépendant et que c'est dangereux pour la santé ?
Il faut distinguer la dépendance d'une part et puis les risques pour la santé. Parce que ce n'est pas la même chose. Pour la dépendance, on a longtemps cru qu'il fallait fumer au moins une cigarette par jour, ce qu'on appelle être fumeur quotidien, pour devenir dépendant. Alors pourquoi on avait cette idée-là ? Parce qu'on utilisait pour mesurer la dépendance un test qu'on appelle le test de Fagerström, c'est un médecin suédois qui est toujours vivant, tant mieux pour lui, qui avait mis ce test au point et qu'on utilise tous les jours chez l'adulte. Mais malheureusement, on l'a utilisé chez l'adolescent, à tort, parce qu'on n'avait pas autre chose, et on en a conclu que quand les adolescents remplissaient ce test, ils avaient un test à 0, ça va entre 0 et 10, ils n'étaient pas dépendants. Il ne faut surtout pas utiliser ce test chez les adolescents, il n'est pas du tout adapté. Heureusement, il y a une équipe américaine qui a mis au point depuis quelques temps un test spécifique pour les adolescents, j'en ai apporté quelques exemplaires, qui s'appelle le test de Difranza, c'est le nom du médecin qui l'a mis au point, qu'on appelle aussi le HONC, c'est une abréviation américaine, Hooked on Nicotine Checklist, et un seul item positif dit que l'adolescent est déjà dépendant. Il y a 10 items, il y a 10 petites questions, et plus on a de réponses positives, plus on est dépendant. Et avec ce test-là, les médecins américains, les psychologues américains sont aperçus qu'un adolescent pouvait être dépendant en fumant quelques cigarettes par mois. Vous voyez donc l'évolution qui est assez récente. On peut déjà être accro à la nicotine au niveau cérébral avec quelques cigarettes dans le mois. Alors pour les risques pour la santé, c'est différent. Là, on a étudié récemment avec un collègue de Metz, le docteur Gérard Péfer, avec qui je travaille pas mal, les petits fumeurs et les fumeurs intermittents, ce que les anglo-saxons appellent les LITS, Light and Intermittent Smokers. Alors il y a une grosse différence entre le cœur et le poumon. Pour le poumon, c'est dose dépendant. C'est-à-dire que plus on fume, plus on a de risques, notamment de cancer du poumon. Quelqu'un qui fume 3 cigarettes par jour aura un petit risque, entre guillemets. 3 paquets par jour, énorme. En revanche, la surprise des études américaines, puisqu'il n'y a que pour faire des études sur des grandes cohortes comme ça, c'est que au niveau cardiovasculaire, les petits fumeurs sont à haut risque. 3-4 cigarettes par jour, ça suffit pour faire des pathologies cardiovasculaires coronariennes très grave. Donc on voit déjà l'inégalité entre le côté dépendance, addiction et maladie, et puis au sein des maladies, une différence entre le cœur et le poumon, par exemple. Et ce sont des études assez récentes, parce que les chercheurs ne s'intéressaient avant qu'aux fumeurs qui fumaient au moins 15 ou 20 cigarettes par jour. Le malheur pour nous, c'est que la plupart des études internationales n'ont inclus que des gens fumant au moins 20 cigarettes par jour pour qu'ils soient inclus dans des études. Donc on a oublié tous les autres.
Et alors la question qui va de pair, souvent les fumeurs disent « moi je risque rien, je fume des cigarettes light ». Est-ce que c'est vrai ou pas ?
Les cigarettes light, ça a été un énorme piège tendu par les fabricants de cigarettes, qui sont extrêmement forts dans ce domaine-là. Ils nous sortent, à chaque fois que les scientifiques démontrent la dangerosité de quelque chose, ils nous sortent quelque chose de nouveau. Quand les cigarettes fortes, les boyards, maïs et tout ça ont été réputées dangereuses, ils ont sorti les cigarettes légères, les light, qui donnent des taux de monoxyde de carbone très élevés, donc extrêmement mauvais pour le cœur et les vaisseaux. En Suède, ils ont sorti le tabac sans fumer, le snus. En Suède, il y a 10% de fumeurs seulement. Enfin, parmi les gens qui consomment du tabac, il n'y a que 10% de fumeurs de cigarettes. Les autres consomment du snus. C'est un peu de la pâte ou du tabac qu'on met dans la bouche entre la joue et la gencive. Et ça donne plutôt des maladies cardiovasculaires et stomatologiques. Récemment, ils ont sorti la cigarette électronique. Enfin, c'est pas eux vraiment, c'est un pharmacien chinois. Un pharmacien chinois qui a sorti ça. Donc les jeunes adorent ce type de gadget sur Internet. Le narguilé aussi a été relancé, très connu dans le Maghreb. Donc à chaque fois, ils ont quelque chose à proposer. C'est avec souvent beaucoup de mensonges, puisqu'ils nous ont dit que les cigarettes légères, c'était fumer sans danger, ce qui évidemment était un énorme mensonge. Mais souvent, plus le mensonge est gros, mieux ça passe.
Je voudrais compléter ta réponse avec deux éléments. En ce qui concerne le narguilé, c'est 50% des jeunes parisiens, c'est-à-dire de moins de 20 ans, qui fument le narguilé. Une heure et demie de narguilé, c'est plus d'un paquet de tabac fumé pendant ce temps-là. La deuxième chose, c'est que le fait de passer à des cigarettes light a modifié le type de cancer du poumon qu'on peut voir. Autrefois, on avait plusieurs types de cancers du poumon, les épidermoïdes, les adénocarcinomes. Il y en avait 50% à peu près de chaque type de cancer. Avec les cigarettes light, on voit de plus en plus d'adénocarcinomes. Ce sont devenus des tumeurs très périphériques alors qu'autrefois, elles étaient proximales. C'est des tumeurs qui ont une évolution assez rapide avec de nombreuses métastases. Donc les cigarettes light nous ont apporté beaucoup de modifications en termes de cancer du poumon. Merci. Et pas dans le bon sens.
Comme dirait le professeur Dotzenberg à la Pitié-Salpêtrière, il dit « Choisissez votre cancer, fumez fort, fumez léger. Soit vous aurez un épidermoïde, soit un adénocarcinome. » Il y a un peu de cynisme dans ses propos, mais c'est un peu ça quand même en pratique.
Merci de votre réponse. Je vais vous prendre le micro, professeur Corby. Merci. Allez-y pour vos questions.
Je ne sais pas si Madame Lamour a parlé, le docteur Lamour a parlé du tabagisme passif. Je n'ai pas cru entendre rapidement.
Non, je ne l'ai pas signalé.
D'accord. Je voudrais savoir quelle est la part du tabagisme passif dans les diverses formes de cancer, plus particulièrement le cancer du poumon. Et je me suis demandé pourquoi nos autorités n'ont pas osé, en interdisant le tabac sur les voies publiques ou autres, interdit franchement, par exemple, sur les quais de gare, où les gens, comme vous, descendent du train, ils donnent un bon coup, et puis quand ils rentrent, eh bien, vous subissez, pendant tout le voyage, eh bien, le parfum de ce genre de petites choses.
Alors, excusez-moi. Désormais, ça fait erreur de ma part, c'est interdit de fumer sur les quais de gare, simplement, ce n'est pas respecté. Mais c'est bien signalé en gare qu'on ne peut pas normalement fumer dans les quais de gare, il me semble. Bon, bah, y a des gares, en tout cas, où c'est interdit, ça, j'en suis sûre, hein, pour l'avoir constaté, parce que c'est affiché. Maintenant, peut-être que donc... voilà. La deuxième chose, pour le tabagisme passif, le risque attribuable au tabac passif pour les cancers du poumon, donc il est non passif, ça a été estimé à 30% par rapport à un non-fumeur non exposé au tabagisme passif. Donc oui, le tabagisme passif, sûrement.
Et est-ce qu'une personne qui serait proche d'une personne qui fume, donc qui serait un fumeur victime de tabagisme passif, serait considéré dans la même case que, je ne sais plus qui d'entre vous a tout à l'heure montré, le fumeur qui n'avait jamais fumé, en fait.
Ah non, un tabagisme passif a plus de risques qu'un non-fumeur.
D'accord, il devient fumeur occasionnel.
Non, c'est considéré comme tabagisme passif, c'est pas tabagique occasionnel, mais il a un risque de cancer du poumon bien supérieur à un non-fumeur.
D'accord.
Si je peux compléter quelque part, il y a des enjeux financiers tellement considérables dans le tabac que d'abord la découverte scientifique, la preuve scientifique du danger du tabagisme passif, c'est pas 1950, c'est 1970, donc c'était plus tardif. Et ensuite, à ce moment-là, les fabricants de cigarettes et puis aussi les restaurateurs, les gens qui ont des bars, des boîtes de nuit, etc., ont mené une lutte féroce. Moi, j'ai animé une conférence où malheureusement je me suis piégé, c'était des patrons de boîtes de nuit qui étaient en congrès au Futuroscope. Et je me suis fait évidemment allumer, j'étais avec le docteur Coulombier, médecin du travail au CHU, on s'est fait allumer vraiment comme des pigeons. Ils sont vraiment féroces et de mauvaise foi. Et l'industrie du tabac nie complètement les dangers du tabagisme passif, soit de façon un peu camouflée, ils n'osent peut-être pas le dire au cours des grands procès, mais ils le nient avec des moyens vraiment peu honnêtes, quitte à payer, à inonder d'argent des gens pour dire que ce n'est pas dangereux. Donc il y a vraiment beaucoup d'enjeux financiers là-dedans, comme dans beaucoup de choses.
Oui, alors j'allais poser une question sur les métastases, mais puisque la conversation est venue sur le tabagisme passif, je me demande quand même, lorsque on est sur un quai de gare en plein air et que on sent simplement un petit peu l'odeur, on la reconnaît, qu'on peut tourner la tête, ah, il y a quelqu'un qui fume, quand ça se produit comme ça occasionnellement, est-ce que on peut vraiment parler déjà de tabagisme passif ?
Non, bien sûr.
Bon, parce que justement, il y a une espèce de pression idéologique et médiatique qui me paraît un peu effrayante. Bon, mais c'est une parenthèse. Alors la question que je voulais poser, puisque vous avez parlé de métastases tout à l'heure, je voulais savoir entre le moment où un cancer commence à apparaître et le moment où il s'est suffisamment développé, où il devient apte à envoyer des métastases, est-ce que vous avez une idée du délai, ou est-ce que c'est très variable, ou est-ce qu'il y a à peu près des normes connues ?
C'est variable parce que les temps de doublement de croissance tumorale sont variables d'un patient à l'autre, d'une tumeur à l'autre. Simplement, au moment du diagnostic, lorsque le diagnostic cancer du poumon est porté chez un patient, 80% d'entre eux sont déjà métastatiques.
Merci.
Question ? Allez-y.
Oui, bon, bonsoir. Donc vous avez parlé de, si j'ai bien entendu, de 20% de patients non fumeurs atteints. Est-ce que l'augmentation du cancer du poumon chez le non fumeur est en lien avec la pollution atmosphérique ?
Ça a été évoqué. C'est essentiellement ce qui est évoqué, c'est la pollution au diesel, en fait, donc ville industrielle, production automobile.
D'accord. Celui qui a arrêté de fumer a-t-il toujours un risque de développer un cancer du poumon ?
Oui, bien sûr, mais son risque diminue au fil du temps de son sevrage tabagique. Cependant, le risque ne redevient jamais le même que celui de quelqu'un qui n'aurait jamais fumé. Mais il y a toujours intérêt à faire un sevrage tabagique, parce que le risque diminue.
Et dernière question, parmi le nombre de patients, quel est le chiffre, enfin la statistique, de femmes atteintes ?
Globalement, c'est à peu près 30% des patients actuellement.
C'est en hausse ?
C'est en hausse. D'accord. C'est en hausse. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les cancers du poumon d'aujourd'hui sont le résultat du tabagisme d'il y a à peu près 20 ans. Non, il faut un certain délai pour faire son cancer du poumon, si je puis dire. La deuxième raison, c'est que les femmes fument de plus en plus, alors que chez les hommes, on arrive à obtenir actuellement une stabilisation. Donc on a un nombre de cancers du poumon chez l'homme qui se stabilise, alors que chez les femmes, ça continue à augmenter, ce qui fait qu'on voit de plus en plus de femmes à l'heure actuelle. Alors en ce qui concerne les femmes, vous savez que chez la femme, le premier cancer, c'est le cancer du sein. C'est le cancer le plus fréquent. Cependant, en termes de progrès thérapeutique, la mortalité diminue de façon très importante, ce qui fait que désormais, ces femmes mourront plus souvent d'un cancer du poumon que d'un cancer du sein, parce que la mortalité du cancer du poumon est supérieure à celle du sein, même s'il y a beaucoup moins de personnes qui ont un cancer du poumon. Donc les courbes vont bientôt se croiser, on arrive à peu près à équilibre à l'heure actuelle.
Et d'après ce que j'ai cru, enfin pas entendre ce soir, mais je crois que les femmes sont plus sensibles, il me semble, plus sensibles au cancer du poumon, enfin plus réceptives.
Oui, et surtout elles sont aussi plus dépendantes en termes de tabagisme et donc beaucoup plus difficiles à sevrer.
D'accord. Alors juste encore une chose. Je crois aussi qu'il y a il me semble qu'il y a une notion de durée dans le tabac plus que de quantité de cigarettes.
Alors, on sait que fumer... Enfin, tu veux peut-être répondre, oui, Michel.
Effectivement, nous, pneumologues, on a un peu la mauvaise habitude d'avoir comme unité de mesure le paquet année. Alors, c'est un truc que personne ne comprend rien, sauf les étudiants en médecine. On accorde la même importance à la dose et à la durée. Un paquet par jour pendant 20 ans, ça fait 20 paquets années. L'équipe des cancérologues de Villejuif, il y a très longtemps déjà, notamment Catherine Hill, avait montré que la dose, c'était un facteur 1, mais la durée, c'était un facteur 4. En fait, il vaut mieux, il ne faut pas le dire aux adolescents, mais il vaut mieux fumer pendant un an pour faire sa crise d'adolescence et puis arrêter, quitte à fumer un paquet par jour, plutôt que de fumer ses 10 cigarettes par jour jusqu'à 40-50 ans. Parce que le facteur n'est pas le même. Alors, il y a une équation compliquée. Avec des
oui, mais le risque est exponentiel sur la durée, plus que sur la quantité.
Alors justement, on a évoqué les femmes qui fument plus, les adolescents et les plus jeunes, on fume de plus en plus jeune, vous confirmez ?
On dit qu'en moyenne, l'âge d'initiation, c'est 13-14 ans. Mais avec des grandes variations, il y a des enfants de 9 ans qui fument allègrement, pas dans les établissements scolaires, mais à la sortie. Ce qui pose problème, évidemment, c'est comment intervenir auprès d'eux. Parce que c'est très, très difficile de parler tabac aux adolescents. Ils écoutent plus ou moins bien, poliment, souvent dans le Poitou, parce qu'ils sont gentils. Mais on ne sait pas si ça a un impact. Donc on ne sait pas si on intervient quand on le fait pour quelque chose ou pas. Et c'est très embêtant, surtout qu'on sait qu'ils sont dépendants très vite, comme je vous le disais tout à l'heure.
Et plus on va être dépendant jeune, plus ça sera compliqué de s'arrêter ?
Oui, tout à fait. Oui. Avant, c'était l'âge du service militaire. Hein. L'homme commençait à fumer à l'armée. C'était presque une initiation obligatoire. Sinon, on n'était pas un homme, d'ailleurs. Maintenant, c'est 13-14 ans, voire moins. Donc la dépendance s'installe beaucoup plus vite, mais aussi les pathologies. L'âge du cancer a beaucoup changé, pathologies cardiovasculaires, etc.
Avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on reste encore un tout petit peu sur ce terrain, parce qu'il y a des parents, je pense, dans cette salle ce soir. C'est difficile d'avoir un discours avec des enfants qui ont 12, 13 ans, qui fument en général pas devant les parents, évidemment, même si ça se détecte quand même plus ou moins facilement. Quel discours il faut avoir ? Est-ce que les images chocs que l'on peut voir en pub, à la télé, ou dans des reportages, ou dans des magazines, sont une bonne chose pour vous ? Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Pendant longtemps, on a pensé que les images chocs, c'était vraiment mauvais pour les ados, parce qu'ils aiment bien l'horreur, les films d'horreur et tout ça. Ce qui est surprenant, c'est que certains ados dans les lycées demandent à ce que l'intervenant, un médecin, etc., montre des images comme ça. C'est à leur demande à eux, ce qui est assez surprenant. On ne sait pas si c'est un petit peu pour rire ou pas. Une voie importante, c'est de leur parler de la façon dont les fabricants de tabac les arnaquent et les piègent. Ils sont extrêmement sensibles à cet argument-là. Parce que ça, ils ne le savent pas. Ils pensent que les fabricants de tabac, c'est des gens sympas, comme les fabricants de vêtements, de chaussures. Quand on leur montre les procès américains, les mensonges des cigarettiers, les acteurs payés des sommes considérables pour fumer telle marque dans tel film, etc., ils sont extrêmement sensibles à ça parce qu'ils n'aiment pas se faire avoir, ils n'aiment pas qu'on leur mente, et on utilise pas mal cet argument-là. Mais il en faudrait d'autres.
Merci. Je crois qu'il y avait une question.
Je confirme juste ça.
Allez-y.
Effectivement, je ne sais pas si ça fonctionne, si les adolescents, donc c'est non seulement le tabac, mais c'est le cannabis, et parfois en quantité très importante, et surtout le mélange avec l'alcool. Et c'est souvent, pour beaucoup, une fois par semaine. Et ils en parlent vraiment sans difficulté. Mais il faut aborder le problème. Dès qu'on leur pose la question, ils répondent. Et pour eux, c'est presque... c'est initiatique, bien sûr.
Une normalité, presque.
C'est quasiment une normalité, oui.
Okay.
Pour beaucoup, il y a quand même...
Oui, c'est pas de généralité, mais... Voilà. On va rassurer les parents qui sont dans la salle, qui vont rentrer à la maison... n'ayant peur. Ce n'est pas de généralité, mais c'est vrai que ça se confirme de plus en plus, effectivement. Madame ?
Alors, j'avais d'autres questions, mais puisque vous parlez du cannabis, est-ce qu'on peut donc avoir un cancer du poumon uniquement en fumant du cannabis ?
Le problème, c'est que les personnes qui fument du cannabis ne fument en général pas que ça, et commencent par la cigarette. Donc, en fait, on n'a pas d'études qui permettraient de dire c'est que le cannabis. C'est souvent les deux qui sont associés. Alors, par contre, là encore, il y a un risque exponentiel à associer ces deux facteurs de risque, et c'est probablement ce qui explique le fait qu'on voit actuellement de très jeunes adultes qui ont des cancers du poumon, notamment les jeunes de 30 ans.
Merci. Donc, ma question précédente sur ce que vous avez dit, pourquoi les femmes sont-elles plus dépendantes ?
Il y a certainement des facteurs génétiques, hommes-femmes, mais aussi selon la race. On sait que chez les Afro-Américains, les Noirs américains fument des cigarettes mentholées essentiellement, mais pas beaucoup, un nombre assez faible par jour. Ils font beaucoup de cancers du poumon quand même. C'est vraiment pas de chance. Donc il y a des facteurs, notamment le cytochrome P450, donc qui est quelque chose qui sert à dégrader les molécules au niveau du foie essentiellement. Donc on sait qu'il y a des grandes inégalités génétiques selon le sexe, selon la race et selon les individus à ce niveau-là, mais c'est encore du domaine de la recherche.
Alors, il a été démontré deux choses récemment, que chez les femmes, donc le sevrage était plus difficile à obtenir. Et la deuxième chose, c'est que le tabagisme chez la femme était impacté la survie de façon plus importante que le niveau socio-économique.
Oui, pour rebondir là-dessus, c'est
vrai. Mais ça, ce sont des données assez récentes.
Le professeur Lagrue à Créteil, qui a quand même été un peu le fondateur de la tabacologie en France, nous expliquait toujours que le fait d'arrêter de fumer était plus difficile chez les dames que chez les messieurs, parce que le syndrome de sevrage nicotinique comporte des signes très communs avec le syndrome prémenstruel. Donc il peut y avoir un cumul des deux, et ce qui rend le sevrage tabagique plus difficile pour une dame, notamment à certains moments du mois, que chez les messieurs. Donc c'est un argument possible. L'autre argument des psychiatres, c'est que le syndrome anxio-dépressif serait plus fréquent chez les femmes que chez les hommes, je sais pas si c'est vrai. Et donc, au cours du sevrage tabagique, il y a souvent un syndrome anxio-dépressif, voire même des idées noires, ce qui évidemment amène au grand débat actuel du Champix. Est-ce que les idées suicidaires sous Champix sont liées au Champix ou à l'arrêt du tabac? Je n'ai pas la réponse, mais le simple fait d'arrêter de fumer spontanément, sans médicaments, peut donner un syndrome dépressif sévère. Donc, les dames et les messieurs ne sont pas égalités à ce niveau-là.
Merci.
Donc, ma question initiale, c'était sur le Champix, justement, de savoir si, malgré les débats sur la liste des médicaments qui sont sur la sellette, est-ce qu'il faut, pour quelqu'un qui serait sous Champix, continuer ou pas
Il est sous haute surveillance de l'AFSAPS, suite au scandale du Mediator. Un patient qui est sous Champix déjà et qui n'a pas d'effet secondaire, il ne faut pas l'arrêter. Parce qu'il faut surveiller, mais il ne faut pas l'arrêter. Quelqu'un qui est demandeur de Champix et qui n'en a pas reçu encore, moi j'en prescris encore moins qu'avant, bien sûr, avec une plus grande prudence. Mais déjà auparavant, on essayait de ne jamais en prescrire aux patients ayant une pathologie dépressive ou psychiatrique. Là où on s'est fait avoir, entre guillemets, c'est des gens qui n'avaient aucun antécédent et qui ont développé des syndromes dépressifs sous Champix. Donc, alors, par contre, la balance bénéfice-risque est nettement en faveur du Champix. C'est qu'il y a beaucoup plus d'arrêts et de réussites, avec quasiment pas d'effets secondaires, c'est 90% ou plus, que d'effets secondaires. Mais il y a un moment où, quand même, si les effets secondaires sont gravissimes, même s'ils sont peu nombreux, il faudra que l'AFSAPS prenne une décision. Qu'elle devrait faire, je crois, au cours de ce mois-ci. Donc, actuellement, moi, je laisse toujours le choix au patient, est-ce qu'il en veut ou pas. S'il n'en veut pas, surtout, je n'en prescris pas, évidemment. Donc, c'est un peu le retour des substituts nicotiniques, après des IBAN qui a vraiment été trop dangereux aussi. On n'a pas tellement de chance avec les vrais médicaments du sevrage tabagique. Les uns après les autres, ils présentent des problèmes... soit médicaux, effets secondaires, soit ils tombent au moment d'un scandale, etc. Donc, c'est pas... Bon, moi, j'écrase pas je détruis pas le Champix. Hein. Je lui laisse une chance, on va voir ce que ça donne.
Alors, pour aller dans le même sens, et avant de donner la parole à monsieur, où en est justement la recherche par rapport à d'éventuels produits qui pourraient, ou substances qui pourraient aider le fumeur à arrêter de fumer? On a évoqué le Ziban, le Champix, il y a les fameuses gommes, etc. Il y a un vaccin aussi.
Le vaccin anti-nicotine. Alors, ce vaccin anti-nicotine, il n'est pas commercialisé, je dirais heureusement. Il a pour but de fabriquer, de capter la nicotine que le fumeur inhale par des anticorps qui vont bloquer la nicotine dans le sang. Donc il faut faire fabriquer des anticorps. Ça suppose des injections toutes les 3 semaines, un dérèglement du système immunitaire et quelques études scientifiques qui ont montré que le succès était identique aux substituts nicotiniques. Donc franchement, moi je ne me ferais pas faire ça si j'étais fumeur. Hein. Même si c'est commercialisé, parce que j'aurais trop peur. Hein. Ah bon.
Et d'une manière générale, la recherche, elle avance.
La recherche, c'est surtout sur les récepteurs nicotiniques cérébraux. Mais depuis le Champix, il n'y a pas de molécule qui devrait sortir prochainement. Il faut à peu près 10 ans entre le moment où on trouve une molécule et le moment où elle arrive dans les officines. Il n'y a pas de nouveaux produits. On avait beaucoup d'espoir dans un médicament, mais qui a la Complia, qui est utilisée aussi dans l'obésité, le diabète, etc. Mais lui aussi a eu beaucoup d'effets secondaires. Il s'appelait le Rimonabant. Et en plus, il agissait sur les récepteurs cannabinoïdes du cerveau. Alors on s'était dit, ça y est, on a trouvé le remède miracle pour les fumeurs et pour les fumeurs de cannabis. Et bien malheureusement, ça ne marche pas du tout dans ce domaine-là.
Est-ce que le médicament numéro un, ce n'est pas la volonté?
Alors, nous, on dit la motivation.
Ou la motivation.
Parce que la volonté, c'est un terme péjoratif pour le fumeur, hein, même si pour nous, ça, c'est pareil. Pour nous, en général, la motivation, oui, sans motivation, aucune technique ne peut marcher, hein, c'est certain. Oui. La motivation, c'est le moteur, alors ça se travaille. Hein, il y a des entretiens motivationnels qui peuvent se faire avec des psychologues ou des médecins. Donc on peut parfois prendre en charge quelqu'un pendant 2 ans pour augmenter sa motivation et puis ensuite que des patchs ou un autre médicament fonctionne. Et sans motivation, ça ne marche pas.
Monsieur ?
Oui. Le cancer du poumon, si j'ai bien compris, c'est dû au goudron qui se dépose lorsqu'on fume. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fumer, ça donne le cancer de la vessie ?
Alors, c'est pas qu'une question de goudron qui se dépose, il y a aussi une question de température, de combustion, donc il n'y a pas que les goudrons. Ensuite, dans la cigarette, hein, on a plus d'un certain nombre de produits, on a des milliers de produits, en fait, toxiques qui sont cancérigènes. Et après, pour fabriquer un cancer, ce sont des mutations génétiques qui se font au niveau des cellules normales, et ces mutations génétiques peuvent survenir n'importe où. Alors, il a été montré, bien sûr, que le cancer de la vessie peut être induit par le tabac, de même que le cancer du poumon, mais c'est vrai aussi pour les cancers ORL, et depuis très peu, il a été montré que c'était vrai aussi pour le cancer du sein. C'est aussi un des facteurs de risque parmi les autres. Donc, il n'y a pas que ces deux types de cancers qui peuvent être favorisés par le tabac.
Alors pour le cancer de la vessie, on dit un peu naïvement que c'est pendant la nuit, les cancérigènes s'accumulent dans la vessie et attaquent la paroi vésicale et entraînent des phénomènes précancéreux puis cancéreux. L'intestin aussi, c'était démontré pour des polypes, des gens qui ont des polypes qui fument, ça favorise la dégénérescence du polype colique. Et pourtant, on ne fume pas par cet endroit-là.
D'autres questions? Alors, ici, là-bas. Moi, j'en ai une, avant de vous donner la parole, madame, une question qui m'est arrivée par écrit. Pourquoi le fumer donne cette sensation de coupe-faim? Et surtout, pourquoi prend-on autant de poids quand on arrête de fumer?
Alors, effectivement, il y a 4 raisons... qui font qu'on peut prendre du poids à l'arrêt du tabac. Alors, est-ce que c'est systématique? Non, heureusement, mais c'est fréquent. Alors, on prend en moyenne, un fumeur qui arrête prend en moyenne 3 à 4 kilos. Et c'est de manière physiologique, si je puis dire, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on commence à fumer, on se met en sous-poids. Moi, je prends toujours l'image du ressort, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un ressort en position normale qui donne le poids sur un curseur imaginaire. Quand on fume, on écrase le ressort de 3 à 4 kilos en moins. On sait que les fumeurs sont en sous-poids par rapport aux autres. Ils ont 3 à 4 kilos de moins. Et quand on arrête de fumer, le ressort reprend sa place. C'est un phénomène physiologique incontournable. Donc la prise de 3 à 4 kilos, elle est très très difficile à éviter. Pour l'éviter, il faudrait des mesures alimentaires draconiennes et un exercice physique intensif. C'est pas gagné. Alors après, pourquoi certaines personnes prennent 10, 15, 20 kilos? Alors il y a plusieurs mécanismes. La nicotine est un excellent coupe-faim, c'est un anorexigène. C'est pour ça que les mannequins utilisent ça, mais elles n'utilisent pas que ça d'ailleurs. Les jeunes filles aiment bien fumer pour garder la ligne. Ensuite, la nicotine a un effet lipolytique, c'est-à-dire que ça déstocke les graisses. Et à l'arrêt du tabac, on restocke ces graisses, donc on prend du poids. Ensuite, il y a l'effet sur le goût et l'odorat. Le tabac, le fumeur perd très vite le goût et l'odorat. Et à la reprise à l'arrêt du tabac, pardon, c'est ce qui s'améliore le plus vite. On reprend le goût et l'odorat, donc on a tendance à manger plus, à manger des bonnes choses, etc. Et puis le dernier élément, qui est plutôt d'ordre psychologique, voire psychanalytique, c'est l'oralité. Les psychiatres disent qu'on se nourrit au niveau oral, etc. La fumée de tabac, les fumeurs disent que ça remplit, ça comble un vide. Ça comble un vide dans l'existence ou des problèmes existentiels, etc. Et à l'arrêt du tabac, le fumeur a souvent envie de se remplir d'autres choses. La nature a horreur du vide, donc on va aller... En plus, il y a une compulsion vers le sucre, une attirance vers le sucré, donc vraiment, c'est pas de chance. On est attiré à l'arrêt du tabac vers tout ce qui est sucré. Mais bon, il y a quelqu'un dans la salle qui est beaucoup plus compétent que moi, qui est diététicienne. Mais c'est multifactoriel. Donc la prise de poids, c'est vraiment ce qui fait très, 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 très peur aux patients. On a un cahier national de tabacologie qui est le même à travers la France. Et à la fin du cahier, il y a quelles sont vos craintes à l'arrêt du tabac. Donc on trouve toujours d'être irritable et de prendre du poids. Quasiment tout le temps. C'est pas facile. Hein.
Merci. Madame ?
Oui, je voulais parler. Est-ce que vous pourriez nous développer un petit peu le sujet de l'emphysème, justement dû au tabac ? Et est-ce qu'on finit vers un cancer lorsqu'on a de l'emphysème ?
L'emphysème. Alors vous avez expliqué emphysème, déjà, pour commencer.
L'emphysème pulmonaire est, pour faire simplement, une maladie qui consiste en la destruction des tissus du poumon, qui est liée pour la plupart d'entre eux directement au tabac. On va dire 90% d'entre eux, parce qu'il existe quelques emphysèmes chez les patients non fumeurs. L'emphysème est donc, par le fait qu'il est dû au tabac, un facteur de risque du cancer du poumon, puisque ça survient surtout chez des patients qui ont fumé, et c'est le tabac qui est le facteur du risque du poumon plus que l'emphysème. Voilà.
Des stades dans l'emphysème ?
Alors, il n'y a pas de stade dans l'emphysème pur. Il y a des stades dans l'insuffisance respiratoire provoquée par l'emphysème. Mais après, ça devient très compliqué. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des stades d'insuffisance respiratoire. Hein. Dans les stades les plus graves, on devient oxygénodépendant. Mais ce sont des stades d'insuffisance respiratoire créés par l'emphysème. Ce ne sont pas des stades purs d'emphysème, si vous voulez.
Les classifications actuelles ont tendance à englober un petit peu la BPCO et l'emphysème dans la même catégorie, même si ce ne sont pas les mêmes maladies, mais c'est lié au tabac dans les deux cas. Donc il y a beaucoup de points communs quand même. Puis comme disait Corinne, ça se termine par l'insuffisance respiratoire chronique. Donc actuellement, dans le terme BPCO, ça englobe un petit peu bronchite chronique et emphysème. Mais stricto sensu, l'emphysème ne donne pas de cancer. Simplement, ils ont les mêmes causes.
En fait, c'est la cause, voilà, tabac, qui est commune.
Merci, madame. Question ? Ici. Pendant ce temps-là, je vais m'adresser au professeur Corby. Vous avez évoqué tout à l'heure l'acte chirurgical. Est-ce qu'il est douloureux ? Est-ce que la douleur... parce que vous avez parlé d'une grande cicatrice, en tout cas d'une grande ouverture.
Alors, ce n'est pas forcément une grande ouverture. Elle est oblique dans les côtes. Les incisions vont tendre à diminuer beaucoup par rapport à ce qu'on faisait auparavant. Ce n'est pas tellement ça. C'est une chirurgie qui est très douloureuse. Il y a l'écartement des côtes, il y a la plèvre, l'ouverture de la plèvre. La plèvre, c'est ce qui tapisse à l'intérieur de la cavité thoracique, est un tissu extrêmement réflexogène. C'est pour ça que finalement, les vidéochirurgies qui font des petites incisions sont parfois pas moins bien douloureuses, parce que ça joue un grand rôle. L'anesthésie a fait d'énormes progrès en ce qui concerne la chirurgie thoracique. Car bien sûr, on fait ça sous anesthésie générale, mais en plus, on propose et on fait une anesthésie loco-régionale, péridurale ou rachianesthésie, de la même façon qu'elles existent pour l'accouchement, par exemple, sauf que c'est plus haut et ça permet de rendre insensible le thorax. Ce qui fait que dans les 48 à 72 premières heures, on se réveille et on a une insensibilisation du thorax, ce qui évidemment est un confort sans précédent sur les suites chirurgicales. Mais ce qui permet de faire tousser les patients, de les mobiliser, et donc de beaucoup mieux supporter la chirurgie. Donc, on peut dire qu'actuellement, c'est les 10 dernières années, il y a eu beaucoup, beaucoup de progrès faits pour la douleur. Mais comme disait Daniel Hoffnung, une fois passé ce cap, les douleurs restent quand même un problème important
en post-chirurgie. Elles ont plusieurs facteurs, facteurs psychogènes évidents, il y a des facteurs inflammatoires, il ne faut pas méconnaître des épanchements pleuraux. Enfin, c'est une prise en charge qui souvent est spécifique et je sais que de plus en plus, nous, on passe la main sur la médecine générale et parfois sur la consultation antidouleur. Il ne faut pas hésiter à, parce que ce n'est pas honteux d'avoir mal ou d'avoir généré un patient qui a mal, il ne faut pas hésiter à s'entourer du réseau de soins et de la consultation antidouleur.
Merci. Monsieur ?
Je voulais savoir quelles étaient les actions de santé publique les plus utiles qu'on rencontrait à travers le monde pour faire diminuer le taux de fumeur.
Vaste sujet. Hein. Certainement, prendre le problème le plus tôt possible, c'est-à-dire intervenir auprès des enfants et des adolescents. Mais on n'a pas trouvé actuellement de type d'intervention extrêmement efficace. Les Canadiens, les Suisses ont l'air un petit peu meilleurs que nous, mais bon, c'est pas du tout facile d'agir à ce niveau-là. Nous, l'expérience qu'on a dans la Vienne, c'est pas facile. Mais le problème, il faut le prendre à la base, probablement. L'augmentation du prix du tabac, des choses comme ça, bon, moi, j'y crois pas tellement, parce que quand le fumeur est accro, il est prêt à tout pour avoir sa dose de nicotine. Il y a la contrebande, des choses comme ça. Donc je pense que idéalement, c'est prendre le problème à la base, l'éducation des enfants et des adolescents. Mais comment, je ne sais pas.
Alors, quand on regarde les chiffres, on a à chaque fois montré qu'augmenter le prix du tabac diminuait la consommation de tabac. Mais après, pour combien de temps, c'est une autre histoire.
Merci. Bon,
justement, excusez-moi. Là. Cette réflexion-là, justement, j'ai fait un petit tableau concernant justement le prix du tabac. Le prix. Chez les enfants, justement, quand on leur pose des questions, en leur faisant remarquer, moi je viens de faire un petit tableau, que 5 cigarettes quand même par jour, c'est pas beaucoup, mais ça leur coûte quand même 37 euros par mois et 450 euros par an. S'ils en fument 10, ça leur coûte 900 euros. S'ils fument un paquet, ça leur coûte 1800 euros. Est-ce que cette remarque peut les faire réfléchir?
Oui, certainement, parce que...
En leur disant 1800 euros, vous pouvez vous offrir quand même bien des choses, quand même.
Surtout si l'enfant ou l'adolescent gère sa cagnotte, c'est-à-dire s'il est autonome à ce niveau-là, entre guillemets, ouais. Ça peut être un argument intéressant. S'il adhère à cette technique, comme des adultes font des cagnottes à l'arrêt du tabac, hein, ils mettent tous les jours le prix du paquet dans un petit cochon dans une boîte. Donc ça peut être tout à fait pertinent si l'adolescent adhère à cette technique-là. Avec l'idée de s'acheter un jeu vidéo, voyage, etc. Donc, on peut lui proposer de choisir quelque chose qu'il aime beaucoup. Et ça peut marcher, à condition que l'ado soit réceptif à cette technique-là.
Oui, justement, l'autre jour, on a fait cette synthèse-là pour des gamins. Là, c'était à Civray récemment. Et beaucoup de jeunes ont repris un peu cette réflexion. Et à la fin, ils ont quand même pris conscience quand même que 1 800 euros par an pour un gamin qui fume un paquet, c'est quand même important.
C'est vrai qu'on a tendance à penser au prix du paquet et pas sur un an.
Voilà.
Et même chez les adultes, on leur fait calculer sur le cahier de tabacologie, quand ils reçoivent à domicile ce cahier. Après l'état civil, il y a combien dépensez-vous par jour, par mois, par an.
Oui.
Et souvent, ils sont sidérés, même les adultes, de voir... Voilà. La somme en euros dépensée par an.
Par jour. Peut-être pas très explicatif, mais
par an, ça
représente quand même quelque chose d'important.
Tout à fait.
Et ça peut être un argument.
Absolument.
Bon, et deuxième chose, en dehors, un sportif de bas ou de haut niveau, enfin de moyen niveau ou de haut niveau, est-ce qu'il élimine plus qu'un autre, une personne qui ne fume pas?
Plus à risque, pardon.
Est-ce qu'il élimine plus
est-ce que le sportif, par exemple, qui se dépense énormément, un footballeur, un coureur à pied, cycliste, etc., est-ce qu'il élimine plus qu'un autre?
Alors, ça a été étudié pour le monoxyde de carbone, hein, le gaz contenu dans la fumée de tabac qu'on inhale. C'est un gaz qui a une demi-vie de 2 heures. Dans l'organisme standard, on va dire. Donc, il est éliminé complètement en 10 heures, parce qu'il faut multiplier la demi-vie par 5 pour avoir l'élimination complète. Alors, une étude anglaise, sinon on peut imaginer plein de choses, mais une étude anglaise avait comparé les employés de bureau et les porteurs de viande, c'était comme ça, donc un peu les Fordéal de chez nous. Et effectivement, y a une différence d'élimination du monoxyde de carbone uniquement. Voilà. L'étude ne portait que sur le monoxyde de carbone, où il est éliminé plus vite quand on fait de l'exercice physique. D'accord. Mais au total, enfin au global, je pense que ça change pas grand-chose, puisque le CO a une toxicité cardiovasculaire rapide. Donc je ne suis pas sûr que le fait qu'il soit éliminé un peu plus vite en faisant du sport change grand-chose au final, si vous voulez.
D'accord.
Mais scientifiquement, merci. Ça a été étudié.
D'autres questions ? Encore monsieur, pendant ce temps-là, je vous en pose une autre. Est-ce que le fait d'avoir dans sa famille des personnes qui fument entraîne inévitablement des fumeurs au niveau des enfants ou de l'adolescent ?
Oui, parce que notamment ce qui a été étudié, c'est le tabagisme du meilleur copain ou de la meilleure copine. Mais c'est sûr que si les deux parents fument, y a un côté non pas permis de tuer comme dans James Bond, mais permis de fumer, quoi. Même si parfois les deux parents fumeurs interdisent de fumer, ce qui n'est pas facile à faire comprendre à l'adolescent. Plus sérieusement, pour les psychologues et les psychiatres, il y a trois types d'apprentissage d'un comportement. Il y a le modèle de Pavlov, c'est le chien de Pavlov, la sonnette de Pavlov. Il y a le modèle de Skinner, c'est-à-dire la récompense. Est-ce que le fait de prendre une substance amène une récompense à la personne ? Plaisir cérébral, etc. Et puis, le modèle d'Albert Bandura, qui est l'imitation de modèle. Alors, c'est très important chez l'adolescent. L'apprentissage par imitation de modèle, ce sont les héros à la télé, les acteurs de cinéma, les parents, la meilleure copain, meilleure copine. Et moi, ce que je regrette un peu actuellement, c'est que dans les films, on voit de plus en plus d'acteurs fumer, alors qu'à une époque, ça avait diminué un petit peu, suite au scandale de Sylvester Stallone, là, qui avait été payé des millions de dollars pour fumer une marque précise de cigarettes. Je trouve qu'on fume beaucoup dans les films actuellement, même à la télé ou dans les films. Et les cigarettiers sont certainement passés par là.
Et il y a un facteur d'hérédité pardon, par rapport au cancer du poumon, pas ?
Alors oui, il y a en tout cas un terrain familial où on a certaines familles où plusieurs personnes sont touchées. Donc ça peut jouer aussi.
Merci. Monsieur ?
Oui, j'avais entendu dire que les cigarettiers américains ajoutaient des additifs pour rendre dépendants plus rapidement. Est-ce que cette information est exacte ? Et est-ce que c'est toujours le cas, si c'est vrai ?
L'information est exacte.
Oui, et pas que les Américains, malheureusement, mais c'est vrai qu'ils détiennent une grande part du marché, hein. RG, Reynolds, etc. Alors, depuis très très longtemps, ils ajoutent, ils ont 600 additifs à leur disposition environ, qui ont été connus au cours des procès américains, sinon c'était secret. Alors, ils en ont encore plein de substances qui sont secrètes, ils sont très rusés. Mais l'exemple classique, c'est l'ammoniac. Depuis très longtemps, ils ajoutent de l'ammoniac liquide, et non pas du gaz, hein. L'ammoniac qui s'écrit QE quand c'est liquide, et non pas C quand c'est un gaz. Donc ils ajoutent de l'ammoniac dans la fabrication des cigarettes pour modifier le pH de la fumée, le côté acide ou alcalin. Et en augmentant le pH de la fumée, on augmente l'absorption par les alvéoles pulmonaires de la nicotine, qui arrive encore plus vite dans le sang et dans le cerveau. Donc l'objectif qui avait été retrouvé dans les dossiers saisis au cours des grands procès américains, c'est que les dirigeants de ces firmes-là avaient dit à leurs troupes, il faut absolument que les enfants soient accros très vite. À une époque où ils ciblaient plutôt les femmes, les ados, les pays du tiers-monde, ça c'était ce qu'ils affichaient semi-officiellement. Et ces procès avaient permis de montrer qu'ils ciblaient les enfants de 8-9 ans. Notamment en ajoutant de l'ammoniac, du cacao pour donner du goût chocolat. Mais le cacao contient de la théobromine qui dilate les bronches parce que c'est très proche de la théophylline qui est un vieux médicament de l'asthme. Donc ils ont plein de ruses comme ça à leur disposition. Et malheureusement, beaucoup sont des secrets de fabrication qui sont découverts qu'à l'occasion de grands procès.
C'est la raison pour laquelle il y avait des parfums dans les cigarettes, mais aussi où on vendait des paquets de 5 parce que c'était moins cher pour les ados. Donc ils pouvaient acheter le petit paquet de 5. Le problème des parfums, ça se retrouve maintenant dans le narguilé ou chicha, hein, puisqu'on peut les parfumer. Donc ça, c'est le problème de la dépendance chez les jeunes aussi.
Oui, donc les messages chocs, pour revenir dessus, sur les paquets de cigarettes, les photos éventuelles qu'on peut trouver aussi, pour vous, n'ont pas grand intérêt.
Oh ben, je crois qu'il n'y a aucun moyen n'est inutile pour lutter contre le tabagisme.
D'autres questions, madame ? Un mot pendant que le micro arrive sur l'unité de tabacologie du CHU, docteur Anderner.
Oui, donc on est trois médecins, une psychologue et une diététicienne et une secrétaire, mi-temps. Et on est situé au pavillon Beauchamp, donc du CHU. La consultation s'est amplifiée en 2001, alors qu'elle a été créée en 1989. Et effectivement, à titre d'anecdote, à chaque fois qu'il y a une interdiction, une augmentation du prix, on a une augmentation du nombre de consultants. Mais comme le disait Corinne, c'est un phénomène très temporaire, puisqu'ensuite, ça revient à l'état de base. J'avais mis le numéro de téléphone sur la diapositive que vous avez dans le dossier.
D'accord. Il est effectivement le numéro ainsi que le site internet dans les documents que nous vous avons remis. Madame ?
Est-ce qu'on peut développer un cancer sans symptômes particuliers, un cancer du poumon ?
Oui, tout à fait. C'est bien le problème du diagnostic du cancer du poumon qui est toujours assez tardif, hein, puisque 80% des patients sont métastatiques et parce que pendant très longtemps, on peut ne pas avoir de symptômes.
Est-ce qu'il ne faudrait pas à ce moment-là prévoir un dépistage régulier comme on fait pour le cancer du sein ?
Ça a été étudié. Le problème des dépistages, c'est qu'on tombe dans la santé publique. C'est-à-dire qu'il faut, il y a un coût des examens de dépistage, il y a un gain par rapport au nombre de cancers dépistés. Ça marche très bien, par exemple, pour le cancer du sein, où on a montré que les mammographies avaient un intérêt parce qu'on avait plus de bénéfices en termes de coûts. Dans le cancer du poumon, ça n'a pas montré qu'on améliorait, qu'on avait un bénéfice parce qu'on n'améliore pas la survie globale. Donc en termes de coûts à l'échelle de la santé publique, ça n'a pas d'intérêt.
Merci. D'autres questions ? Monsieur ? Attendez, on va vous donner le micro.
Oui, bien sûr.
Non, parce que les questions sont enregistrées, en fait.
Ah, pardon.
Voilà.
Oui, avec le déremboursement et puis la diminution de la prise en charge, je crois savoir que dans les services de pneumo, les séjours sont relativement longs pour certains. Qu'adviendra-t-il des remboursements qui vont certainement diminuer ? Est-ce que ça peut être dissuasif quelquefois pour faire arrêter certains ?
Alors, l'arrêt du tabac ne se fait pas en milieu hospitalier en termes d'hospitalisation. Donc, parce que vous parlez de séjour hospitalier un peu long, donc je ne sais pas si j'ai bien compris la question.
J'ai été un peu trop vite. Vous dites que tous les moyens sont bons pour convaincre les gens soit de ne pas commencer, soit d'arrêter. Est-ce que la prise de conscience du fait que des parents séjournent relativement longtemps dans certains services et que ça coûte de plus en plus cher à la famille, peut permettre un retour de convaincre certains soit de diminuer, soit de ne pas s'y mettre du tout.
C'est-à-dire j'espère,
effet de, un feedback, si vous voulez.
Oui, je crois que lorsqu'on a une hospitalisation prolongée dans un service, c'est un bon moment aussi pour arrêter. D'une part, parce que de toute façon, en secteur hospitalier, c'est interdit, donc ça aide. Ensuite, c'est le bon moment pour en discuter avec les médecins et puis peut-être pour avoir une meilleure motivation. Donc oui, ça peut être un moment déclenchant pour arrêter de fumer.
Oui, d'ailleurs, je voudrais dire que dans beaucoup d'hôpitaux, c'est le cas à Poitiers depuis quelques années, des médecins tabacologues se déplacent dans les chambres, au lit du patient, ce qui n'existait pas il y a quelques temps. Hein. Il fallait que le patient vienne vers la consultation de tabacologie. Donc, dans la plupart des hôpitaux français, il y a un tabacologue qui va au lit du patient dans les services de chirurgie, d'orthopédie, maternité sans tabac, en gynéco, etc. Ce qui est un plus, évidemment. Hein. C'est pas obligatoire, on peut refuser. Hein. C'est comme la personne qui vient proposer des revues ou des livres quand on est hospitalisé, on peut dire non merci. Mais le fait d'aller vers les personnes, c'est toujours mieux que le fait qu'elle fasse la démarche de téléphoner, d'aller vers une consultation. Donc le moment de l'hospitalisation, c'est sûrement un moment privilégié pour se dire, je n'ai pas de cigarette, je suis en manque, je vais avoir recours à un tabacologue ou une tabacologue, et j'entreprends une démarche de sevrage. ça peut être tout à fait intéressant. Et si on ne propose pas quelque chose à ce moment-là, on passe à côté d'un élément important. Sur le retour à domicile, souvent, ça se solde par une reprise de la cigarette, comme dans les retours après infarctus dans les centres de réadaptation où on ne fume pas, mais quand on revient à la maison, on fume, sauf si on a été pris en charge par une équipe spécialisée à ce moment-là.
Madame ?
Oui, vous parliez de santé publique et il me semble bien que, surtout dans le secteur privé, encore que mon public, il y a plus de suivi, il n'y a plus de radio pulmonaire, de dépistage systématique. Et je trouve ça dommage et grave, justement, parce qu'après, on aboutit à des cancers évolués avec métastases.
C'est ce que je disais, c'est que quand je parle de santé publique, c'est au niveau de l'État d'une façon générale, que les campagnes de dépistage public se traduisent en termes de bénéfices, enfin de coûts pour les examens réalisés et de bénéfices par rapport aux économies qu'on peut réaliser en termes de maladies déclarées, en termes de gains de vie pour les patients, en termes de patients qui, s'ils ne sont pas malades, parce qu'on a découvert un cancer suffisamment tôt, vont pouvoir aller travailler, donc cotiser pour la retraite, etc. Et c'est cette balance qui est faite en termes de santé publique entre le coût d'un dépistage et son bénéfice. Après, ce n'est pas à notre échelle individuelle, mais c'est... Voilà.
J'ai connu l'époque des camions radiophotographiques qui existaient avec la DAS, donc qui sillonnaient le département, qui allaient dans les écoles, les entreprises, les places de village, etc. Moi, j'interprétais les radios de format 10 cm sur 10 cm, ce qu'on appelait les 10-10. On dépistait quasiment jamais de cancer du poumon.
Non, mais
peut-être
y a quand même...
Mais...
Il y a quand même une chose simple, c'est qu'effectivement, si on veut parler de dépistage, on s'adresse à des personnes qui n'ont aucun symptôme. Donc, effectivement, c'est une part de la population, mais ce n'est pas la majeure. Qu'on commence déjà par faire une radio pulmonaire à des gens qui ont beaucoup fumé et qui ont des symptômes respiratoires. Je veux dire, un fumeur qui a plus de 40 ans et qui tousse, il faut qu'il ait une radiographie pulmonaire.
Et la radio, c'est le seul moyen de dépistage ?
C'est le moyen le plus simple, parce que si on commence à faire un scanner à tout patient de plus de 40 ans qui a fumé, alors là, la caisse, elle explose.
D'autres questions ? Oui.
Si j'ai bien compris, une fois qu'on est accro, c'est très difficile de se détacher de la cigarette. Donc, à part une prise en charge personnelle, c'est pas vraiment la peine de chercher à décrocher la personne du tabac, mais est-ce que, par exemple, par une mise en situation pratique, comme ce que le monsieur disait tout à l'heure, du coût du tabac, est-ce qu'on pourrait distribuer des tests de dépendance et de consommation à grande échelle, comme on fait des tests de personnalité dans des revues, on fait un test de sa dépendance au tabac, et est-ce que vous pensez que ce genre d'action aurait des effets significatifs?
Alors les tests de dépendance au tabac adulte ou adolescent ne mesurent que la dépendance nicotinique, donc bon, ça serait bien, mais il y a aussi la dépendance psychocomportementale, qui est beaucoup plus difficile à évaluer, puisque souvent il faut des entretiens avec des psychologues ou des psychiatres, ce qui est impensable de manière systématique en santé publique. Alors certes, si déjà on prend des gommes à la nicotine, des comprimés ou des patchs, ça va aider considérablement, mais il faut toujours penser à la dépendance psychocomportementale, qui est souvent, c'est les fumeurs qui le disent, plus difficile à enlever que la dépendance nicotinique. Parce qu'on a quand même des bons médicaments, notamment ceux qui sont absolument pas dangereux, comme les substituts nicotiniques. Donc, actuellement, ce qui nous pose le plus de problèmes, c'est la prise en charge de la dépendance psychocomportementale. Et là, il n'y a pas de questionnaire, c'est pas très bien géré, on sait pas trop le faire.
Mais les trois dépendances viennent toujours ensemble ?
Alors, elles sont constantes, mais dans des proportions variables. C'est comme un cocktail, il y a des gens qui ont 80% de dépendance nicotinique et très peu de psychocomportemental, d'autres c'est l'inverse. Et le traitement doit être adapté en fonction de cette proportion des trois dépendances. C'est un des éléments de base du traitement, de la prise en charge, on va dire plutôt.
Alors c'est vrai qu'il faut se faire aider, mais vous dites qu'on ne peut rien faire en dehors de l'aide. Alors là, je ne suis pas d'accord. On peut toujours faire quelque chose, donc il faut toujours essayer. J'ai des patients qui arrêtent de fumer sans aide de quiconque, uniquement par motivation. Donc c'est important d'essayer. Et puis comme vous l'a montré le docteur Hunderner, il faut souvent arrêter 3 ou 4 fois de fumer avant de s'arrêter complètement. Donc surtout, n'hésitez pas.
Il faut bien expliquer aux... Nous, on dit à nos patients, c'est que si on rechute, c'est pas un échec, c'est une expérience. Pendant très très longtemps, le patient qui avait rechuté, et surtout son entourage qui enfonçait le clou encore un peu plus, disait « t'es nul, t'as pas de volonté, tu réussiras jamais ». Enfin bon, ils en ont jusque-là, les fumeurs, d'avoir entendu ça. Donc il faut essayer de positiver en disant, en leur montrant le modèle de Prochaska, ça les aide beaucoup, et en leur disant « quand on apprend à patiner, on se casse la figure sur la glace ». Même les grands champions, ils se cassent la figure. Donc moi, j'ai une diapo avec la chute et la rechute pour les étudiants en médecine. Si on rechute, ça fait partie de la dépendance. Donc c'est plus, faut plutôt le vivre comme une expérience que comme un échec. Enfin, surtout pas comme un échec.
Merci. D'autres questions? Ce sera la dernière, monsieur, alors?
J'ai remarqué que dans le monde des médecins, un certain nombre fumait. Est-ce que ce nombre diminue?
Je l'espère. on a bien sûr quelques collègues qui fument, ça c'est sûrement vrai, mais en toute connaissance de cause, en ce qui me concerne, moi je ne fume pas.
On ne fume pas Beauchamp. Hein.
Mais globalement, le nombre diminue, mais il y a toujours des médecins fumeurs qui sont beaucoup plus nombreux en France que dans les pays anglo-saxons. Ça a toujours été comme ça. Alors, c'est peut-être les études de Dole et Peto qui ont marqué les esprits anglo-saxons, mais il y a très peu de médecins anglo-saxons qui fument, alors qu'en France, il y avait à une époque autant de médecins que dans la population générale, c'était 30%. Ça a considérablement diminué, mais c'est pas encore zéro. Hein.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, docteur Corinne Lamour, professeur Pierre Corby, docteur Daniel Hofnung et docteur Michel Hunderner. Je voudrais en profiter aussi pour vous remercier, vous, bien évidemment, de votre fidélité à ce nouveau rendez-vous, nouvel horaire, 18h30. Merci au CHU, merci à l'Espace Mendès France, également aux équipes techniques. Et puis pensez bien à remplir le formulaire qui est dans votre petit dossier jeune. Vous n'en avez pas, madame, on va vous en donner, n'ayez pas peur. On va aller vous en chercher. Il y en a en haut, madame, voilà. Et c'est assez important, ça nous permet d'améliorer sans cesse ce pôle info santé. Le prochain rendez-vous, notez-le, c'est le 14 avril, toujours 18h30, avec un thème qui va nous concerner. J'ai vu pas mal de personnes avec des lunettes. Entre autres, nous évoquerons la DMLA, c'est-à-dire la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Rendez-vous donc le 14 avril. Merci à vous.